Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung fu. Prouve-le-moi.
Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe.
Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de High Kick dans ton podcast. Le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Et rappelons juste, c'est la rentrée.
Ouais.
Alors, comment vas-tu mon cher Seb?
Salut mon petit Jazz. Eh ben, ça va super, les vacances, elles ont fait du bien, mais vraiment du bien. Parce qu'en fait, bon, les auditeurs ne le savent pas, mais pour un peu d'inside, on enregistre les épisodes un peu en avance, ce qui fait que on s'est laissé tranquille tout le mois d'août parce qu'on avait le matos et tout était déjà bien programmé. Mais voilà, on est revenu à la rentrée, prêt, on s'est musclé, on a travaillé nos arts martiaux et puis on est paré, quoi.
Bah oui, carrément. Et puis, avant de commencer, bien évidemment, cet épisode, hein, on va répéter le concept pour les petits nouveaux. Hein. Donc, on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui, elle, seule mérite qu'on s'intéresse au film. Bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb.
Oui.
Aujourd'hui, on s'est retrouvé un peu dans l'embarras.
Ah, on peut le dire très cash, on était dans la merde, hein, on va se le dire.
alors, pour cause, nous avions teasé un film avec un duo musclé.
Ben, à la fin de Blood and Bones avec Michael J. White, hein, l'épisode
ça,
juste avant, on avait dit, oh là là, vous avez retrouvé un duo iconique du cinéma américain, et oups.
Et alors, on va dire, eh bien, le long métrage dont on devait vous parler hein, n'est finalement pas un film d'arts martiaux.
Non.
Mais un film de gunfight. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement?
Ouais, parce qu'on n'en parlera finalement jamais, parce que malheureusement... Alors, c'était déjà à l'époque, je l'avais regardé il y a très longtemps, donc on parle du film Rogue, l'ultime affrontement avec Jason Statham et Jet Li. Et ce film-là, à l'époque, nous avait été vendu comme l'affrontement entre Jason Statham et Jet Li, puisqu'on commençait à voir Statham qui commençait à donner 2-3 coups de pied, 2-3 coups de poing, et on s'est dit, tiens, ça peut être cool d'en parler. Et j'avais gardé un souvenir assez mitigé de ce film-là, mais je dis, bon... Avec le recul, ça peut être sympa d'en parler. Et en fait, bah, j'ai attendu tout le film. Les combats, il y en a pas. Il y en a pas un seul. Ça se bagarre au flingue. Jet Li fait 2-3 trucs, mais il fait rien de transcendant. Et en fait, j'ai poussé le vice d'aller regarder les bonus du DVD que j'ai acheté exprès pour le podcast. Et dans les bonus, en fait, ils nous disent que bah, le réalisateur nous dit « Oui, mais je voulais pas faire un film de kung-fu. » Et bim, ça s'était réglé. J'ai dit, bon, ok, c'est bon, c'est clair. Parce que même l'affrontement final, ça ressemble plus à un combat de rue où les adversaires, Jason et Jet Li s'envoient des tout ce qu'ils peuvent trouver partout dans la gueule, ils donnent des gros bourre-pif. Ça fait pas du tout arts martiaux. Et c'était voulu. Et même Jet Li en rigole à un moment donné dans les bonus puisqu'il explique que, mais t'es sûr que c'est moi que tu veux dans ton film parce que moi, on me prend pour faire du kung-fu, quoi. Donc là, tu veux pas faire du kung-fu, je trouve ça bizarre et tout. Et voilà. Le film est pas désagréable au final parce qu'il y a un plot twist qui est plutôt sympa. Mais par contre, pour les arts martiaux, ben, on reviendra. Hein.
Ah, je suis bien d'accord. Et au final, en fait, pris par notre professionnalisme endurci, hein, nous avons dû trouver. Voilà. Et nous avons dû trouver un film avec ce duo.
Ouais.
C'est alors que s'est dressé devant nous The One de James Wong et tout de suite la bande-annonce.
Le jury populaire vous déclare coupable des 123 chefs d'accusation pour meurtre avec préméditation et des 123 chefs d'accusation pour voyage interdit dans des univers parallèles.
Ce que je suis devenu maintenant n'a encore jamais existé.
Pour tous ces crimes, vous êtes condamné à la prison à vie, sans possibilité de retour. Vous êtes prêt? Et vous? Bouge pas! Il s'échappe!
Il n'y a qu'un endroit où il a pu aller.
Pas de problème.
Et si un tueur voyageait à travers des univers parallèles et que ce tueur vous ressemble à l'identique?
La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas fou. La mauvaise...
Avant de le voir, j'ai senti sa présence. C'était moi.
Et que rien ne puisse l'arrêter dans la conquête de votre monde.
Chaque fois qu'il tue l'un d'entre vous... L'énergie se répartit sur les survivants.
Il a presque la force de Yulo.
dû à ce qui vous arrive en ce moment. En vieillissant, les gens ne deviennent pas plus forts et plus rapides qu'ils ne l'étaient.
Si jamais on le tuait, c'est tout l'univers qui pourrait disparaître.
Il faut que je le fasse. Encore une fois.
Non !
C'est la seule façon de l'arrêter. À ma manière. Ouais, ça aussi, ça marchera.
Je t'ai manqué.
One.
Bon, ce fut difficile pour nos yeux, voilà.
On va en parler après. Grippe à toutes tes cartouches. Grippe à toutes tes cartouches. Alors, il aurait pu clairement se mettre dans un triptyque. Vous savez, on a deux bons films et ensuite après on a un troisième, c'est plutôt un nanar. On a longuement hésité, mais on s'est dit putain, c'est quand même un film qui a du budget. C'est pas si mal quand même. Il y a deux trois trucs qui vont bien et c'est pas non plus un nanar. C'est un film raté, mais on va en parler justement.
Alors, je suis bien d'accord. Bon, quand même, on peut juste le dire, c'est que cette préparation d'émission a été faite dans les larmes et la douleur.
Ah oui.
Mais au final, vous allez peut-être nous prendre pour de véritables génies ou escrocs, car nous allons quand même faire des rapprochements avec le précédent épisode. Et ça, c'est plutôt cool.
Ah oui, il y a des connexions que, en fait, c'était pas fait exprès, on va se le dire. Mais on s'est dit, putain, merde, en fait, on a une cohérence éditoriale dans notre podcast, quoi. C'est quand même fou, quand même, cette histoire.
Ah, c'est génial. Alors, de ce fait, ce qu'on peut dire de The One, c'est un film sorti en 2001 qui surfe allègrement sur le succès de Matrix.
Non,
long métrage de James Wong, scénariste émérite de la série X-Files, est un véritable succès au cinéma, surtout dans le monde entier, puisqu'il rapporte un peu moins de 80 millions de dollars pour un budget avoisinant les 49 millions de dollars.
Gros succès.
Alors, est-ce que tu savais qu'à la base, le long métrage devait être porté par un certain Dwayne Johnson et le titre du projet était The Rock Movie?
Il paraît, j'ai cru voir un truc passer comme ça. Ouais, je sais pas ce que ça aurait donné, hein, parce que c'était pas le The Rock qu'on connaît, quoi. Hein.
Ah bah non, c'était le The Rock du Retour de la Momie, et notamment en fait, il a quitté le projet de The One, qui a pris pas mal de retard, et pour aller jouer avec Brendan Fraser, et notamment quand Dwayne Johnson est parti du projet, eh ben le projet a été réintitulé Untitled The Sci-Fi Project. Et quand Jet Li est arrivé, eh ben, il s'est nommé The One. Et du coup, ma question habituelle, mon cher Seb, je suis désolé, mais peux-tu nous parler de ce film?
Ah purée, là tu m'envoies une énorme patate. Hein. Non, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. On peut le dire quand même que le pitch est, sur le départ, quand on le lit sur le papier, il est assez novateur. Parce qu'en fait, c'est avant le MCU, c'est avant le DCU, tout ça, tous ces trucs-là. Parce que, et même avant Everywhere, Everything, All at Once, j'ai réussi à le dire en une fois sans bugger, ça parle de multivers. Donc, ça part du principe, en fait, ils disent, en fait, ça démarre en disant que l'univers n'est pas unique. C'est un multivers. Et on suit, en fait, un agent du multivers, puisqu'en fait, tout ça est régié par des agents hein, qui contrôlent, justement, qu'il n'y ait pas de dérive avec ce multivers. Et il y en a un qui a dérivé, c'est le personnage de Yulo, qui est interprété par Jet Li, qui a une soif, en fait, d'aller éradiquer tous ses doubles dans le monde. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il va tuer un de ses doubles, il va récupérer son pouvoir, enfin son énergie, et il va devenir de plus en plus fort. Et d'où le titre du film, il va devenir The One, donc l'unique dans tout le multivers. Et dans sa poursuite, on retrouve notamment Jason Statham avec son coéquipier, qui vont décider d'aller justement essayer d'arrêter Yulo, qui le court après. Et on va arriver à un moment du film, et c'est là que le film démarre, il ne reste plus que une personne à éradiquer pour être le The One, parce qu'il a en fait tué 123 variants de son itération en fait dans chaque univers. Donc c'est d'ailleurs un moment assez drôle dans le film, puisqu'on voit Jet Li avec des perruques, avec des looks un peu improbables sur des photos. Bref, on y reviendra. Et bah il reste en fait le dernier entre guillemets double dans un univers qui est donc le personnage de Gabe, aussi interprété par Jet Li. Et incroyable. Sauf que on apprend un petit truc qui est très sympa, je trouve, sur le papier pour le coup, c'est que plus les doubles meurent, plus l'énergie est répartie entre les doubles. Et voilà. Donc en fait, si vous voulez, ben ça va nous donner lieu sur le papier à un affrontement entre Jet Li, Jet Li contre Jet Li. Voilà.
Ah, c'est incroyable. Ce qu'on peut dire de Jet Li, c'est que à la base, c'était un immense comédien qui a marqué le cinéma hongkongais avec son rôle de Wong Feng Hung dans la saga Il était une fois en Chine, rôle qui tiendra durant 4 films et une parodie. Il a notamment joué dans des grands classiques tels que Taishi Master, Amishio, Black Mask ou encore Swordsman.
Oui. Ben, mais on, voilà. On peut le dire aux auditeurs, hein, clairement, c'est que on a voulu faire, on s'est mis une balle dans le pied, hein, clairement, on voulait absolument parler de Jason Statham et Jet Li. Alors, on vous parlera pas dans cet épisode des arts martiaux de Jason Statham, parce qu'il sait se battre, hein, c'est pas un grand champion comme les Jet Li, mais il a un passif d'arts martiaux, mais il se bat pas dans ce film. Malheureusement, je pensais qu'il se battrait un peu, mais non, il n'utilise que son gun. Et donc du coup, bah, c'est l'occasion d'introduire Jet Li dans le podcast. Et clairement, bah, on s'est mis un peu de balle dans le pied, parce qu'on n'a pas pris son meilleur, on a pris peut-être son pire film. Et alors qu'il y avait l'embarras du choix. Mais c'est bien, parce que ça nous laisse un peu de matos pour après.
Alors, son pire film, je ne sais pas. Je pense que... Oh, à Hollywood, je pense qu'on peut trouver, pire que The One, mais on en parlera.
Ah, on n'est peut-être pas d'accord, garde... alors. Okay.
On se garde une petite... ouais. Peut-être on va peut-être pas être d'accord sur ça, mais en fait on peut juste dire une chose, c'est que à cette époque-là, donc nous sommes en 1998, l'appel de l'Amérique est arrivé, tout comme Jackie Chan. Les producteurs américains et européens vont l'utiliser à toutes les sauces.
Ah oui.
Il débute en 98 en jouant le méchant du quatrième opus de L'Arme Fatale, et malgré une présence assez froide à l'écran, le book ne sert pas à grand-chose.
Après, moi, je trouve qu'il a quand même, il apporte dans ce film-là, je trouve qu'il irradie la pellicule, hein, quand même. Parce que
ah oui, oui.
Moi, je pense que clairement, je sais pas si c'est pas ma première rencontre, parce qu'en 98, j'ai 13 ans. Je sais pas si c'est ma première rencontre avec lui. Parce que je pense que
moi, c'est ma première.
Ouais, moi, clairement, avec Jet Li, moi, je suis rentré par le cinéma américain.
Ouais.
Ouais. Donc les Roméo doit mourir, Baiser mortel, The One. Après j'ai enchaîné avec le Hero et après je suis allé chercher toute sa filmo antérieure et c'est là que j'ai commencé à jouer avec les Feast of Legend, Il était une fois en Chine, etc. Enfin il y a une filmo vraiment intéressante, hein, Jet Li. Hein.
Ah ouais, moi c'est ma porte d'entrée, c'est L'Arme Fatale 4. Hein. Jet Li, c'est un super méchant dans L'Arme Fatale 4. Le combat final est vraiment pour moi. Un des meilleurs combats de la saga Arme Fatale, mais il joue pas longtemps, il fait quelques petites apparitions. Après ça reste vraiment un méchant emblématique, et puis du coup bah le film L'Arme Fatale 4 va fonctionner, du coup les producteurs vont prendre Jet Li et vont le mettre un peu partout. Alors on commence à Warner, hein, qui a misé 25 millions de dollars sur le film Roméo doit mourir,
qui est pas si mal.
Ah voilà, bon ok, on en parlera du coup.
Je l'ai vu, pour ma défense, je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai trouvé ça pas si mal comme revisite de, parce que Roméo doit mourir est comme le conte moderne de Roméo et Juliette, quoi. Je trouvais pas ça si mal, voilà.
Mais bon, en tout cas, le long métrage de Andrzej Bartowiak, que l'on retrouvera un peu plus tard dans la filmographie de Jet Li, est un succès au box-office et propulse ce comédien au rang de star d'Hollywood. Et de ce fait, puisque The Rock a quitté le projet de The One, rien de mieux que de prendre une star des arts martiaux assurée d'apporter un succès au box-office. Et c'est alors que Jet Li est arrivé sur le projet pour le meilleur et surtout pour le pire.
Ouais.
Mon cher Seb, est-ce que tu peux rapidement nous parler, je te rejoindrai un peu sur cette partie-là, de son art martial.
Ouais, mais alors clairement, cette fois-ci, je suis moins un expert, mais je vais plutôt m'attarder sur sa carrière de martialiste. Et toi, je vais te laisser plutôt la main sur le côté un peu plus technique, puisque tu as pratiqué cet art martial. Il est pratiquant de Wushu, de Kung Fu Wushu, et c'est quelqu'un qui a été énormément titré. Puisqu'il a été dans les années 70, hein, dans ces jeunes années, il a été 5 fois d'affilée champion de Wushu. toutes catégories confondues, parce qu'à cette époque-là, je pense pas qu'il y avait des catégories de poids. Et comme en fait c'était essentiellement en fait une sorte de kata, en fait une sorte d'enchaînement de coups, alors soit pied-point, soit avec un avec le sabre, avec une épée, je sais pas le nom qu'on donne, mais ça je te laisserai la main là-dessus. Et du coup, bah c'est quelqu'un qui a été qui a une certaine renommée sur le côté sportif. Puisque vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui vraiment a envoyé sévère dans ce domaine-là. Petite anecdote, étant plus jeune, il a rencontré Richard Nixon. J'ai retrouvé la vidéo. On essaiera de vous mettre peut-être les liens quelque part, je sais pas où, mais sur les réseaux sociaux. Il fait une démonstration de sparring de wushu avec un de ses partenaires à l'époque. Il avait 11 ans à l'époque où il a présenté ça devant le président Nixon. Donc c'est voilà, petite anecdote assez rigolote. Mais après sur vraiment l'essence du wushu, cette fois-ci je vais c'est une petite nouveauté. Je vais plus te laisser la main parce que clairement c'est ton art martial, ça, le wushu à la base.
Ah oui, tout à fait. Alors je l'ai pratiqué en club et puis individuellement, parce que c'est vraiment un sport qui m'a beaucoup intéressé. Donc du coup après, je me suis un peu entraîné tout seul à répéter mes katas dans la chambre et autres. Alors le wushu, en fait, c'est une manifestation typique de la culture chinoise. C'est un sport qui sollicite à la fois le corps et l'esprit. Sa théorie est basée sur la philosophie chinoise classique, tandis que ses compétences consistent en fait à des formes un peu variées. Donc on utilise le poing, on utilise les armes et autres enchaînements de combats, ainsi que des combats à main nue. Voilà, le wushu possède également une dimension artistique, hein. On est un peu plus sur de la danse. Et en plus d'être utilisé à des fins de défense, il sert aussi à mieux appréhender le corps humain. Alors en Chine, hein, le wushu est aussi populaire qu'il est ancien. Son caractère unique et son attrait indéniable suscitent une attention grandissante à travers le monde. Alors moi, personnellement, j'ai pratiqué le wushu, donc comme je vous disais, en club et après de façon un peu plus individuelle. C'est une pratique que j'admire beaucoup encore aujourd'hui et j'adore regarder des vidéos ou lire des articles concernant ce sport. Alors dans le wushu, pour tout vous dire, il y a plusieurs disciplines et à titre
c'est
perso,
complexe,
en fait, ouais, c'est très très complexe. Donc à titre perso, je pratiquais le tai chi chuan, qui est une discipline à main nue, et le gun. C'est une discipline avec arme. L'arme utilisée, c'est le bâton. D'ailleurs, il me semble, d'après mes souvenirs, j'ai passé ma ceinture jaune avec ces deux disciplines. D'ailleurs, l'épreuve finale était un peu complexe, surtout pour quand t'es gamin. C'est que t'es en position cavalier et tu as ton sensei qui arrive avec un bâton et qui te donne des petits coups sur les jambes pour voir si tu résistes, en fait.
Exactement. Et, je vois très bien la position. Si... C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films, d'ailleurs.
C'est ça, notamment, je crois que c'est dans Bloodsport. Et du coup, en fait, si tu fléchis un peu, tu perds malheureusement ta ceinture. Et puis aussi, au début de chaque épreuve, tu dois répéter le kata. Alors après, ça dépend, hein. Quand tu passes une ceinture jaune, c'est une petite partie du kata. Et puis après, plus tu passes les ceintures, plus en fait le kata devient un peu plus complexe et tu dois répéter un peu plus de mouvements. Mais c'était très intéressant. Alors ensuite, je me suis un peu intéressé, en fait, enfin un peu plus intéressé, pardon, au Changquan, qui est une discipline à main nue du wushu et qui est tout simplement de la boxe longue du nord de la Chine. Alors c'est une pratique qui n'est pas assez rare, hein, qui est enseignée maintenant un peu dans tous les clubs. Ouais. C'est une pratique de la communauté musulmane des Hui, qui est un peuple chinois vivant dans la Mongolie intérieure. Et c'est une discipline qui mêle souplesse, rapidité. Et pour boucler la boucle, c'est une discipline pratiquée par Jet Li.
Il faut le dire, en fait, le wushu, c'est un peu le terme générique pour regrouper en fait tous les arts traditionnels chinois, dans lequel il y a plusieurs branches, plusieurs disciplines. Donc, Jet Li a été champion dans une variante du wushu qu'ils appellent le wushu singapourien. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est complexe, c'est un peu un mot fourre-tout pour dire, grosso modo, c'est tous les arts martiaux traditionnels chinois, quoi.
Mais pour répondre à ta question, qui était plutôt intéressante, parce que c'est vrai que sur le wushu, il y a des formes, des disciplines, formes à main nue et formes avec armes. Tu me parlais de épée, donc l'épée, en fait, on appelle ça le jian. Et puis il y a le sabre. le sabre qu'on voit aussi souvent dans certains films hongkongais, et que c'est le Dao, voilà.
D'accord.
Puis après, t'as l'épée de Tai Chin, donc c'est le Tai Chi Jian.
Mais on voit que Jet Li, en tout cas, pour faire revenir à la boucle à Jet Li, c'est des choses qu'il maîtrise de manière incroyable. Il est aussi bon en pied-point qu'en maniement des épées, qu'en maniement des bâtons, des sabres. Enfin, c'est ça, il nous le montre dans tous ses films. Il nous montre vraiment son talent aussi bien pied-point que arme à la main, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Et du coup, pour revenir un peu au sujet qui nous intéresse, The One, donc ce qui est intéressant aussi dans ce film-là, c'est que on a un casting qui est assez impressionnant.
Ouais.
Alors après, le budget,
l'est
aussi. Hein, mais on a quand même un jeune Jason Statham, hein,
ouais,
qui
avec
est
des
encore
cheveux.
Chevelu.
Ouais, ouais. C'est fou. assez incroyable.
C'est assez incroyable. C'est en fait à la base Jason Statham. On va pas en parler, hein, parce que je pense qu'on se réserve quelques cartouches pour comment dire en parler. C'est juste qu'en fait il était habitué aux films de gangsters de Guy Ritchie et petit à petit il s'est rapproché des films d'action.
C'est ça. Puis c'est faut le dire, hein, c'est un anglais, hein, donc il est on entend son accent anglais. Je veux dire, ça choque personne d'ailleurs dans le film. Je sais pas s'ils lui font la vanne dans un ou deux de ses films, mais il a un accent très très marqué. Je sais pas si après dans ses films plus récents il perd un peu cet accent là et pour prendre un accent un peu plus passe-partout.
Je trouve que après son accent dans les Expendables et tout ça, c'est un peu un accent texan. Il essaye de un peu le modifier, ça fait genre un peu l'américain de service. Mais c'est vrai que dans ses premiers films, il a vraiment l'accent british et ça.
Très british, très ponctué, comme peut l'avoir d'ailleurs. Sur ses productions plutôt, quand il joue vraiment un anglais, Scott Adkins, hein, quand vous entendez son accent, il a un accent très anglais, très ponctué, tout ça. Et bref, mais oui. Je pense qu'on aura d'autres occasions pour en parler de Jason Statham dans le podcast.
Alors, ce qu'on peut dire, juste une chose, et d'ailleurs, on va faire un coucou à ton autre podcast, La Passion du Creep, puisque, en fait, la même année, il jouait dans Ghost of Mars.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Il est, alors, pour info, Ghost of Mars est dans la liste des films qu'on traitera un jour, peut-être, s'il est tiré au sort, parce que c'est un principe de tirage au sort de films d'horreur. Ouais, c'est pas le meilleur Carpenter, donc bon, bref, on en parlera peut-être un jour.
Ouais. Alors bon, après on va pas se le cacher, Jason Statham dans ce film-là, en fait c'est un peu le gros lourd de service, hein, le coéquipier de Jet Li. Bon, il est le maître de la punchline, il se bat pas, il tient toujours son arme, il sert pas à grand chose. Bon,
il a pas trop de temps d'exposition dans le sens où en fait, si vous voulez, il a un gros point positif, c'est qu'il passe très vite, il fait 1h35 le film,
oui,
et ça passe super vite.
Ouais. Alors, on retrouve aussi Carla Gugino qui jouait la même année dans Spy Kids. Et surtout, pour moi, c'est l'acteur culte, hein, Delroy Lindo, qu'on a vu dans Roméo de Mourir, dans Broken Arrow ou encore dans 60 secondes chrono.
Ouais, c'est un acteur, c'est un second rôle dont vous connaissez forcément la tête. Vous l'avez vu forcément dans quelque part. Ah tiens, ce mec-là, je l'ai vu quelque part. Il fait le taf, hein.
Passe partout.
Ouais, c'est ça. On peut noter aussi qu'en acteur vraiment plus que secondaire, on a Dean Norris aussi, qui pointe le bout de sa tête.
Vrai.
Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et je pensais vraiment qu'il allait avoir un rôle plus important. Puis en fait, non, c'est juste une scène, vite fait, puis terminé. On va les peser, et donc je pense que c'était peut-être l'époque où il était pas encore trop sur le devant de la scène. Je pense pas qu'il avait commencé, non, c'est trop tôt, hein, avant que, de... non, c'est 2010, hein, comment s'appelle, la série télé, là, ah, je trouve plus le nom. Donc tu vas pas m'aider, tu vas me laisser.
Non, je vais pas t'aider.
Tu vas pas m'aider,
parce que je l'ai pas du tout, la série.
Mais si, la série, avec, le prof, là, qui a atteint un cancer, etc.
Oui, Breaking Bad.
Breaking Bad, voilà, merci. Voilà. Les auditeurs, ils doivent hurler derrière leur écran.
Ah ouais, non,
mais en tout cas, Dean Norris, ouais, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui a une carrière quand même dans les années 90. Tu te souviens peut-être, mais on le voit dans Échec et Mort, avec un certain Seagal.
Il est
dans Total Recall. Il a joué pas mal pour Paul Verhoeven, puisqu'on le retrouve après dans Starship Trooper. Et là, il a un rôle, je sais pas, il a besoin de bouffer, j'en sais rien. Je sais pas, il a fait un petit rôle où il était peut-être dans le creux de la vague, j'en sais rien. Enfin bref, c'est étonnant.
Une autre série, hein, qui a marqué un peu les années 2000, c'était Under the Dome.
Bah oui. Bon, après, c'est pas une série non plus. Elle a fait que deux ou trois saisons.
Folichon, hein, mais.
Non, mais c'est un acteur qui a beaucoup tourné dans les séries télé. Mais je pense qu'à mon avis, c'est peut-être la période où il devait être dans le creux de la vague, là. C'est peut-être pour ça qu'il a accepté le rôle.
On te retrouve. Payer ses impôts.
Ouais, pour payer les impôts, peut-être, ouais. Mais bon, en tout cas, il est là. Faut le dire.
Seb, il faut qu'on en parle, hein, bien évidemment. C'est un personnage important de ce film, qui est à la fois réalisateur et scénariste.
Oui.
C'est le
moment où on raccorde les wagons et qu'on
s'est... Et c'est le moment où on se dit, on est des sacrés génies quand même.
Ouais, on est des génies. Parce qu'il faut se le dire, je t'ai mis un petit vocal derrière, juste après avoir regardé le film. Et je dis, mais Jazz, tu te rends compte, on fait une connexion entre les épisodes. Vas-y, je te laisse parler. Mais qui est James Wong? Et pourquoi la connexion avec Blood and Bones? Vas-y, dis-nous tout.
Alors, James Wong, en fait, c'est un réalisateur scénariste, hein, d'abord connu pour être un scénariste.
Petit ange parti trop tôt, j'aimerais vraiment dire ça. Et puis, je te laisse terminer.
La punchline. Oui, alors c'est un mec, au départ, à la base, c'est un scénariste en fait de talent, hein, puisqu'il a scénarisé des épisodes de X-Files. Et il est devenu récurrent en tant que scénariste. Et puis après, il s'est dit, tiens, je vais me lancer dans la réalisation. Et au départ, ça cartonne. Il
bah
nous
oui.
fait Destination Finale 1.
Mais il est super.
Voilà. Il nous fait, pour moi, le meilleur Destination Finale, le 3.
Ouais, il est chou. Enfin, moi, ils sont tous cool, je trouve. Après, peut-être la fin, ça commence à être compliqué. Ouais. Mais les trois premiers, ils passent super.
Ils passent super. Et puis, en 2009, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il a réalisé Dragon Ball Evolution. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est...
Ouais, j'ai ce sans voix. Ouais. Et pourquoi on veut le rattacher avec Blood and Bones? Parce que, bah, vous vous souvenez, si vous avez écouté l'épisode d'avant, bah, le réalisateur de Blood and Bones, c'est...
Le scénariste de Dragon Ball Evolution.
Voilà. Oh, et c'était une bonne doublette, hein, les mecs, là. Waouh. Le duo gagnant.
Ah ouais.
Est-ce qu'un jour on le traitera Dragon Ball Evolution parce qu'il y a du combat, hein?
Oui, on peut le traiter en
nanar.
On pourrait
le traiter un jour,
ah oui,
nanar.
En nanar. Oui,
parce que techniquement, il y a de la bagarre.
Comme on pourra traiter Power Rangers le film, hein, parce qu'il y a de la bagarre.
Oh, ah oui. Oh là
bah,
là.
Oui.
Oh là là. Bref.
Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que James Wong, en fait, après Dragon Ball Evolution, sa carrière est décédée. Il est revenu après un peu sur le devant de la scène quand X-Files est revenu, puisqu'il est redevenu scénariste, mais mis à part ça, il n'a plus rien fait, quoi.
Non, c'était très compliqué pour lui. Ouais, mais clairement, hein, c'est. Alors, pas tous, hein, parce que dans les acteurs, mais ça, on en parlera quand un jour on le fera, il y a des mecs qui s'en sont quand même pas trop mal sortis derrière, qui ont réussi à sortir de cette image de ce film. Mais bon, bref, on en parlera quand un jour on viendra sur Dragon Ball Evolution.
Alors, on arrive au moment de notre avis. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
Alors, par où commencer? Pour résumer en fait un petit peu ce film-là, sur le papier, c'est censé être un super truc. Une bonne série B, on sent qu'il y a du budget. Et j'ai envie de dire, pour le résumer, que c'est un peu les promesses pas tenues. C'est-à-dire qu'on attend en fait un combat entre Jet Li, sur le papier ça peut être très cool, tu sais, une histoire de multivers. Je trouve que vraiment, encore une fois, comme je disais au début, le concept d'avoir ces histoires d'énergie réparties dans les multivers quand il y a un des personnages qui meurt, elle est cool sur le papier. Alors elle tient pas, parce que ça peut vite être compliqué à gérer, parce que ça voudrait dire que quand t'en as un qui décède de maladie, ça voudrait dire que les autres récupèrent sa force, enfin c'est... Bon, bref. En tout cas, sur le papier, tu peux te dire, ouais, c'est cool, parce que ça peut te donner lieu à, en fait, des affrontements quand même plutôt cool. Et ben, malheureusement, c'est un film qui pêche par son manque d'arts martiaux. Et le peu qu'il y a, c'est gâché par des effets spéciaux un peu chelous, où t'as des effets d'accélération pour montrer qu'il est super puissant, qui sont un peu ratés. Alors, visuellement, je tiens à le dire quand même, c'est que c'est pas si moche. Parce qu'en fait, je dis c'est pas si moche, attention, ouais. Hein, je mesure, ça n'a pas trop pris la patine du temps. C'est-à-dire que bon, il y a quelques effets qui sont un peu vieillots, mais finalement, c'est assez regardable encore, tu vois. Mais c'est raté, voilà, c'est le mot que je dirais, c'est raté. Parce que clairement, tu l'as dit au début, c'est un film qui a voulu surfer sur l'ère Matrix, qui a voulu faire des effets à la Matrix, et ça marche pas. Le point positif, c'est que la gestion des doubles, et on y reviendra quand on parlera de la scène, parce que malheureusement, bah, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc il y a pas de grand suspense sur de la scène dont on va parler dans le film, mais clairement, c'est un film qui est raté. Après, il y a deux, trois trucs qui marchent bien. Je les regarde en VO, il y a la relation entre les personnages qui marche pas si mal. Le film passe assez vite, malgré tout. Je me suis pas fait chier. Tu vois, je fais juste un petit parallèle. Je suis en plein revisionnage de la saga Mission Impossible. Je me suis beaucoup plus emmerdé à revoir le Mission Impossible 2 qu'à revoir The One. Tu vois, quelque part. Donc, en termes de dynamique et en termes de rythme, ça marche plutôt bien parce que ça va super vite. Mais on ressort quand même, ouais, c'est pas dingo. Je vais te laisser la main.
Ouais, bah pour moi en fait, alors c'est fou parce que c'est vrai que quand on a commencé à parler de The One, hein, je t'avais dit oh bah tu oui d'après mes souvenirs, mais je l'ai vu il y a très longtemps, mais je t'avais dit ouais d'après mes souvenirs c'est pas si mauvais que ça, et je me souviens tu m'avais lancé un vocal en disant ouais c'est pas ouf hein.
Non mais non. En fait, le problème de ce film-là, en fait, c'est que Jet Li ne fait pas ce qu'on est habitué à voir. Il y a pas de vrais arts martiaux, c'est ça qui est dommage. Ça se bagarre, ça donne deux trois coups de pied, ça fait deux trois effets pour montrer qu'il est surpuissant, mais ça marche pas en fait, et c'est chiant en fait. Le film est pas irregardable, le film est pas non plus pourri, fait à jeter, tout est à jeter. Mais c'est raté, donc ce qui fait que c'est pas, voilà. Je m'attendais vraiment à passer un plus mauvais moment, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment été énervé quand je l'avais regardé, et peut-être que j'ai vieilli, que je suis peut-être un peu plus bon public maintenant. J'ai dit, ok, ça passe. Mais c'est pas bon, hein. Clairement, ah oui, je veux le dire.
Ah, pour moi, c'est un navet, hein. Enfin, on va pas se cacher. Alors oui, on rit beaucoup, en voyant les différents Jet Li, hein, notamment le Lirasta. Qui m'a fait beaucoup rire, ou le lichen. Alors quand je parle de lichen, je parle pas du champignon, hein. je dis juste c'est un lit avec des cheveux blonds.
Ouais, mais ça tu vois, c'est peut-être le seul moment marrant du film, parce que tu l'as dit, c'est pas un nanar. Pour moi, je le mettrais pas en nanar. Et non, c'est pour ça qu'il est pas dans en troisième film de nos séries à chaque fois. Il est plutôt en deuxième, parce que c'est un film qui est raté, c'est un navet. Il y a quand même deux, trois scènes d'action qui valent le coup, qui sont sympas, qui marchent plutôt bien. Mais le film est raté dans l'ensemble, et c'est ça qui est dommage.
Alors, ensuite, on va être d'accord, ce genre de film, c'est un film casse-gueule, puisque c'est un film, on sait très bien qu'il va mal vieillir, hein, avec les effets spéciaux. Quand t'as pas le budget de Matrix, c'est compliqué. On va avoir toute une tétrachier de films là, qui sont sortis actuellement au cinéma, et bon... Dans 5 ans, ils sont déjà vieux. Moi, j'ai une anecdote, hein, sur ce film. J'ai mes frangins qui devaient aller voir China Strike Force avec Marta Kaskos au cinéma. Et à cette époque-là, en fait, le cinéma a eu un problème de bobine. Et du coup, ils se sont rabattus sur The One. Et quand ils sont rentrés à la maison, en fait, ils avaient des mines de dépité. Ils étaient hyper deg d'avoir payé pour aller voir The One au cinéma.
Ah bah, je comprends.
Et moi, petit, je me suis dit, mais attends, mais il y a Jet Li. Je me rappelle, mon frère m'avait dit, ah ouais, mais bon, c'est pas Marta Kaskos, quoi.
Non, 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 clairement pas. Il est pas au niveau de ce qu'on attend de lui, en fait. Hein.
Ah ouais.
Il est vraiment pas dedans. Il se débrouille pas trop mal au niveau acting. Voilà. Après, globalement, ça joue bien, parce que Statham joue bien, j'ai encore oublié le nom de l'acteur, mais, j'arrive plus à trouver le mot, son sidekick avant qu'il lui arrive ce qui lui arrive, se débrouille pas si mal. Carla Giugino, je sais pas comment on prononce, elle se débrouille bien dans le film, mais on n'y croit pas à leur relation. Bah, ils ne se font pas.
Non, non.
Alors, attention, hein, rien contre ça. Mais ils ne se font pas un seul bisou du film.
Ouais.
Ils sont censés être un couple. T'es censé caractériser le couple. T'es censé caractériser l'amour fou qui est entre les deux. À aucun moment, il y a un câlin. Alors, je ne veux pas avoir une scène de sexe parce que je pense que Jet Li est quelqu'un de très pudique. Mais, il n'y a pas un seul bisou. Il n'y a pas un, c'est bizarre, toi. Ça marche pas, en fait. Et ce qui marche pas aussi dans le film, c'est ce qui va nous conduire à la scène qu'on a choisie. C'est qu'en fait, on sait qu'il sait un peu se battre, qu'il fait partie des unités d'élite. Donc là, je parle du personnage de Gabe, le gentil de Jet Li. Il n'est pas suffisamment caractérisé tout le long du film pour dire que c'est un crack des arts martiaux, quoi. Et en fait, on nous balance un peu à la gueule la dernière scène. Et en gros, pour te dire, bah attention, waouh, ça va être génial, mais en fait, à aucun moment il se bat, en fait, réellement, pour se dire qu'il est suffisamment bon pour dire il va faire face à l'autre, quoi, à Yulo.
Ah, je suis bien d'accord, ouais. Alors, il y a quelque chose d'un peu plus drôle dans ce film-là, et donc, du coup, tu savais que The One avait eu le syndrome des Simpsons?
Ah non?
Eh ben ouais, James Wan avoue avoir été surpris, car avec Glenn Morgan, ils ont anticipé le futur. Donc, le film date de 2001,
oui.
Mais il est censé se dérouler dans le futur, et on remarque dans les 20 premières minutes du film, dans la prison, une télévision qui diffuse le journal. Et l'actualité est que le gouvernement américain de la Terre est susceptible de promulguer des soins de santé universels pour ses citoyens. Les producteurs du film ne savaient pas que 9 ans plus tard, le président Barack Obama adopterait la loi sur les soins remboursés.
Ah ouais, purée, c'est fort. Mais on l'a dit au début aussi, hein, il est aussi, entre guillemets, précurseur sur le côté multivers. On n'avait pas vu ça au cinéma encore. Enfin, auditeurs, si vous connaissez un film des années 2000 qui parle de multivers, bah dites-nous. Hein. Moi, je vois, perso, moi, j'en vois pas. Hein.
Et non, je vois pas du tout. Ouais.
Pour le coup, The One, il a été un peu précurseur là-dessus et de le revoir, en fait, je trouve qu'il gère bien le côté multivers. Alors, ce qui est plutôt bien fait, je trouve, d'ailleurs, c'est juste un point positif, c'est le côté d'essayer des espèces de ce qu'ils appellent les trous de verre, enfin les tubes, qui les envoient, qui les renvoient dans une autre dimension, enfin dans une autre réalité. Bah, c'est plutôt bien fait, je trouve. Ça marche bien, ça a plutôt bien vieilli, puisqu'en fait, les personnages se décomposent, ils sont complètement démolécularisés, je sais pas comment on dit, pour être reconstitué après dans une autre dimension, enfin dans une autre réalité. Et ça marche plutôt bien, je trouve que l'effet est plutôt bien foutu, on sent qu'il souffre quand même de voyager à travers ces dimensions. Et en fait, je trouve que ça marche bien pour le coup.
Oui, non mais il y a des effets qui sont plutôt pas mal. Moi, j'ai une scène qui me marque encore et je trouve que ça va, c'est pas gênant, c'est la scène avec les motos. Où en fait les motos sont arrêtées dans les airs et Jet Li en fait les balaie avec des coups de pied. Et je trouve que elle est plutôt ouais. Pas mal cette scène.
Oui. Ouais.
Bah, écoute, j'essaie de sauver le film comme on peut.
Non, je trouve que c'est tous ces effets-là de ralenti. Pour moi, c'est tout ce qui ne fonctionne pas dans ce film où il essaie de ralentir pour qu'on puisse bien profiter de l'action. Et ça, pour le coup, je trouve que ça fait partie des choses ratées dans le film. Mais bon, après, voilà, on a le droit de pas être d'accord. Hein.
Ah oui, non, on a le droit, totalement. Bon, écoute, Seb, es-tu prêt?
Ben oui, on va y aller maintenant.
Bah, passons. Passons tout de suite à la scène que nous avons retenue. Alors, quelle scène nous avons choisi?
Eh ben, comme
compliqué,
je l'ai dit.
Hein.
Ouais, c'était dur. Hein. Non, on n'a pas le choix, en fait. On est obligé de prendre la dernière scène. Alors, ouais. Ça va, elle est pas si mal. Je l'ai regardé juste avant qu'on enregistre. Il y a des trucs intéressants. Parce que martialement, bah, il montre qu'il sait se battre. Mais ça sera un peu ce côté un peu mi-figue, mi-raisin de cette scène-là. Parce qu'il faut en choisir une. Je te dis, voilà, faut qu'on aille au bout de notre concept, hein. On a été un peu obligé de choisir The One un peu par défaut parce que, bon, on se dit, voilà, on va essayer quand même d'en faire quelque chose. Bon, on a réussi à en faire quelque chose. Vous me direz, auditeur, si on a quand même tenu la baraque sur ce truc-là. Et puis, encore une fois, dans ce concept de podcast, je tiens à le rappeler ici, on n'est pas obligé tout le temps de traiter de bons films. On va traiter de films. Alors, comme je vous dis, on fait toujours une série de 3. Les 2 premiers films, ce sont censés être des films plutôt corrects, mais qui peuvent être mauvais aussi, hein, mais qui ont un peu plus de budget, qui sont des films très sérieux, entre guillemets. Et le dernier, on prend un nanar, c'est un film, comme on le dit, qui est raté, mais qui rend quand même le truc assez drôle, le concept d'un nanar. Donc ce film-là rentrait bien dans cette case-là des 2 premiers films qu'on choisit. Donc on pourra de temps en temps être un peu énervé de parler de films qui nous plaisent pas. Il y a quand même 2-3 trucs à sauver dans cette scène-là. Donc c'est la scène de fin où on utilise l'affrontement entre les 2 Jet Li. Et ce qui est déjà d'entrée de jeu qui fonctionne très bien dans cette scène-là, c'est que ça marche bien. Donc, dans ce premier-là, c'est qu'on arrive bien à y croire. On y croit que c'est 2 Jet Li qui s'affrontent, puisque il y a assez peu de plans où on voit, enfin, en tout cas, j'en ai pas vu, où on voit que c'est pas Jet Li en face. Donc ça, au niveau gabarit, ils ont su trouver un mec qui lui ressemble à peu près, qui est dans le même poids que lui, et ils ont bien géré cette histoire de, parce qu'ils sont tous les deux, en fait, en espèce de blouse de travail noire, et pour les distinguer tous les deux, le méchant baisse sa blouse et a un t-shirt gris sur un t-shirt noir, ce qui fait qu'on arrive à avoir une scène plutôt lisible. Donc, cette scène-là, elle est moi je l'ai notée en 3 parties. On a une première partie qui se passe grosso modo sur la passerelle où ils se bagarrent et c'est là où on a vraiment une bonne scène de combat.
Ah, je l'aime bien cette partie. Ouais.
Elle marche plutôt bien parce que on voit tout l'art de Jet Li à faire du wushu et à faire du combat. Est-ce que toi tu veux en dire 2-3 trucs sur cette partie-là? Et on va la décomposer comme ça, je pense.
Alors moi, ce que je peux te dire, c'est que... alors oui, on peut différencier les deux Jet Li, et je trouve que c'est plutôt, plutôt pas mal et innovant pour l'époque, puisque déjà d'une, ils ont pris quelqu'un du même calibre que Jet Li, la même taille, la même morphologie. Ce qui s'est passé, c'est que l'acteur, enfin le cascadeur, en fait, a eu le visage peint en vert, ce qui a permis en fait d'intégrer après en post-production le visage de Jet Li. Donc ça, c'est déjà pour l'époque, et je trouve que ça marche plutôt bien.
Et ça marche bien, ouais.
Ça marche bien pour l'époque, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres films qui sont sortis à cette époque-là, avec des doubles, et parfois c'est un peu raté.
Des incrustes numériques, ouais, c'est pas terrible. Ouais.
Là, en l'occurrence, ça match. Chose importante aussi, dans cette scène finale, et notamment sur cette passerelle, comment on peut distinguer The Evil Lee et The Good Lee?
Ouais.
Et bah, en fait, ils ont deux styles de combat différents.
Oui.
En fait, ce qui se passe, c'est que on va commencer par The Evil Lee, qui maîtrise en fait le Zingi Quan, qui est un art martial inspiré de la philosophie taoïste. Ce sont des mouvements explosifs avec des déplacements linéaires, et il est beaucoup plus dans l'attaque. Tandis que The Good Lee, lui, maîtrise le Ba Guanzhang. Alors, c'est un art interne au nord de la Chine et s'illustre par l'observation des phénomènes astronomiques de révolution, de rotation et de pivot.
Ce qui va expliquer la scène juste après. Enfin, la deuxième partie de la scène, mais je ferai le lien tout à l'heure. Oui.
Et dans les mouvements de base du Ba Guan, on marche en tournant autour d'un point comme la Terre tourne autour du Soleil. La Terre effectue simultanément une révolution autour du Soleil et des rotations sur elle-même. Et pour conserver cette image, le changement de la paume du Bagua établit le même rapport qu'entre la Terre et le Soleil. L'art du Baguanzan est fondé sur une stratégie de contournement. Les déplacements circulaires visent à esquiver les pièges d'un rapport de force qui jouerait au détriment du pratiquant. Il s'agit de dérober au face-à-face et de passer sur les côtés ou dans le dos de l'adversaire.
C'est d'ailleurs pour ça que sur cette scène-là, Gabe, donc le Good Lee, est plutôt en difficulté parce qu'il est désavantagé avec sa pratique d'art martial. L'autre est linéaire, donc c'est là où il va plutôt être désavantagé. Alors, on va se dire, c'est quand même une scène de combat qui est quand même assez câblée, puisque on voit, il y a pas mal de flottements, il y a pas mal de trucs aériens, on a l'impression des fois qu'ils volent. Après, ils ont des super pouvoirs, donc clairement, c'est pour ça qu'ils ont cette tendance-là. Et moi, je noterais éventuellement, il y a 2-3 coups de pied intéressants qui sont plutôt sympas dans cette scène-là. Et il y a une scène où, en fait, le bad Jet Li, le evil Jet Lee, donc Yulo dans le film, va sur la passerelle en fait faire locker, donc verrouiller Gabe, et il va en fait bloquer sa jambe au niveau de sa tête, et avec son autre jambe, il va lui enchaîner plein de coups de pied, à la manière d'un Liu Kang dans Mortal Kombat, qui a ce fameux coup de pied où il vient taper deux fois dans le ventre de l'adversaire. Bah là, il fait un peu la même chose, sauf qu'il est accroché en fait à la rambarde, et il met en fait un coup de pied à plusieurs reprises. C'est un peu son ultime coup. Puisqu'après la scène, ils vont descendre d'un niveau, ils vont arriver plutôt sur le sol avec un plus grand espace, et derrière, ça va se conclure que le Yulo va mettre un énorme coup de pied à Gabe qui va finir en fait sur une espèce de borne électrique, et il va penser qu'il est mort. Et c'est là que se termine la première partie de la scène.
Ouais. Tout à fait, ouais.
Et c'est là qu'on arrive du coup dans cette deuxième scène où on a donc Jet Li qui va être au sol avec plus d'espace, et là il va commencer à prendre le dessus. Gabe va prendre le dessus sur Yulo parce que ça caractérise ce que t'as expliqué avant, et je t'en remercie parce que ça permet de mieux comprendre cette scène-là et ça lui donne un peu plus d'importance. Et c'est vrai que si vous la regardez sous cet œil-là, elle est intéressante. Parce que justement, alors ils le disent pas, c'est dommage, si on n'a pas le bagage pour la regarder, bon, c'est une scène classique, un peu vieillie, qui est pas très jolie visuellement, mais ça nous permet un peu de comprendre cette scène-là par tout ce que tu as expliqué en avant-propos. Et dans cette scène-là, on va retrouver nos deux adversaires l'un contre l'autre, et il y a un moment donné, en fait, Gabe va envoyer Yulo dans un espèce de truc un peu électrique, ce qui va provoquer une explosion, et on va avoir une pluie d'étincelles, type des étoiles, le soleil, c'est solaire, et ça renvoie à ce que tu disais. Et visuellement, le combat est plutôt joli à ce moment-là, ils ont tenté un effet visuel qui est pas si mal, qui est un bon, pas encore une fois, qui a un peu vieilli, mais le combat est plutôt intéressant à ce moment-là. Il y a quelques ralentis un peu relous, mais on sent notre Gabe qui commence à prendre le dessus sur Yulo.
Ben c'est ça, et là aussi, cette deuxième partie, malgré voilà, certains effets qui sont un peu chaotiques, je trouve que c'est plutôt bien fait.
Oui.
Je trouve que, pareil, Gabe, The Goodly, se bat super bien. Il montre un peu sa puissance. C'est un peu dommage d'ailleurs que c'est à ce moment-là où il montre sa puissance, mais en même temps, c'est un film. Il faut bien que le héros, à un moment donné, se réveille. Mais justement, c'est un peu dommage qu'on ne voit pas tout ça tout au long du film et qu'on voit ça les dernières minutes finalement.
C'est ça. Mais il est là le problème en fait, c'est ce qui pose problème. La scène dans l'NM, elle est très correcte à regarder, elle est sympa. Mais c'est vrai que malheureusement, elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est pour ça. Alors on l'a pas dit hein, d'ailleurs, c'est important de le préciser. C'est Corey Yuen qui est à la chorégraphie des combats, qui a quand même fait pas mal de choses. Hein. C'est un mec assez connu dans le domaine.
Il a beaucoup de Karate Tiger.
Voilà, et il a surtout aussi, on en parlera un jour d'ailleurs, mais il a bossé pas mal avec Statham, avec les transporteurs.
Oui, tout à fait. Ouais,
donc c'est un mec qui est quand même assez reconnu dans le domaine, et il a fait un taf, on va dire, plutôt correct. Voilà, on va se dire, c'est pas son meilleur boulot, mais ça reste correct.
Oui, ça reste correct. Hein. Après, c'est un film qui est très 2000, hein. On va pas se le cacher, de par la musique.
Alors oui, on va y venir.
Petite transition.
On va y venir justement.
De par sa musique, de par les effets spéciaux, de par les combats, parce que tu me parlais tout à l'heure que Jet Li était vraiment câblé. Les combats avec Jet Li étaient vraiment câblés. Mais quand tu remarques la filmographie de Jet Li, alors pas hongkongaise, parce que à Hong Kong c'est normal. On va dire que la plupart des films avec Jet Li, que ce soit It It en Chine ou encore Taishi Master,
c'est la norme là-bas. C'est la norme.
C'est normal. Aux États-Unis, du coup, eux, ils se sont dit, tiens, Jet Li, lui, c'est un acteur qui est souvent câblé, et on va faire pareil. Donc, que ce soit dans Romo doit mourir, dans En sursis, et notamment dans The One, c'est du câble. Et c'est un peu dommage parce qu'en fait...
Bah, on est habitué à un cinéma américain qui est quand même plutôt terre-à-terre, où les gens restent au sol, et qu'on est plutôt sur un côté, encore une fois, ouais, voilà, au sol, et c'est du combat voilà, très, très dans la... moins esthétique, on va dire, tu vois, c'est plus dans la brutalité. Et je trouve que le cinéma hongkongais, alors il peut être brutal, hein, attention, c'est pas ce que je dis, mais ce côté câble, en fait, donne un côté peut-être plus artistique, tu vois, très... c'est de l'art, hein. Donc c'est pour ça qu'ils mettent vraiment en avance là, on voit... Enfin, le précurseur qu'on a eu en France, nous, pareil, dans ces années-là aussi, c'est Tigre et Dragon, qui a été aussi un des premiers films de là-bas qui a été exporté et qu'on a eu et qui nous a permis de découvrir ce cinéma-là, hein, parce que clairement c'était qu'une poignée d'initiés hein, qui connaissaient le cinéma hongkongais. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense pas me tromper en disant que c'est Tigre et Dragon qui a ouvert en tout cas la porte aux États-Unis à tout ce cinéma-là en fait.
C'est totalement ça. Et le truc, c'est que avant d'attaquer la dernière partie du combat, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que en fait Jet Li est un comédien, en tout cas aux États-Unis, qui a été mal exploité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, notamment dans l'épisode sur Combat de Maître de Jackie Chan, sauf que, on va pas se le cacher, entre Jackie Chan est immense pour ses cascades, Jet Li est immense parce que c'est un vrai artiste martial.
Ouais, il est bon. Voilà. C'est un mec qui est très très bon martialement.
Mais sous-exploité.
Et sous-exploité. C'est pour ça qu'on est déçu, quoi. Et du coup, on va avancer sur la dernière partie du combat qui est la pire, mais vraiment la pire. Ça se conclut de la pire manière du monde. Et c'est encore une fois très années 2000. Et là, je compte sur toi pour faire plaisir à nos auditeurs qui partagent aussi avec nous cette belle musique qu'il y a pendant ce combat-là.
T'inquiète pas.
Parce que là, le combat démarre. Et quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais non, ils ont osé faire ça quand même. Et je me souvenais plus de ça. Ça démarre, cette troisième partie, elle démarre avec un lancement d'un bon vieux rock des années 2000, et c'est Papa Roach qui rentre en scène avec le titre Blood Brother. Vous allez entendre un extrait en même temps qu'on parle, et c'est très années 2000 parce que ça, Papa Roach, c'est du rock, hard rock, très FM, très des années 2000, Enfin voilà, c'est... moi j'ai écouté ça quand je suis au lycée, donc du coup voilà, ça me parle. Et quand j'ai réécouté ça, je dis oh la vache, ah ouais, là c'est très daté quoi. Et il n'y a rien qui va dans cette scène-là parce qu'ils ont fait le parti pris de faire quasiment toute la scène au ralenti pour montrer qu'on est dans les derniers efforts, le dernier machin. Et en fait, on aurait pu espérer que Jet Li fasse un super coup pour faire un super finish, et même pas. Puisqu'en fait, il met un petit coup pour l'envoyer valdinguer, et c'est une explosion en fait qui termine le combat. Puisqu'en fait, ils ont détruit pas mal de choses dans cette espèce d'usine, parce que le cadre c'est une usine, et à un moment, c'est une explosion qui, avec la déflagration, met KO Yulo, et la scène se termine là-dessus.
Voilà.
Et du coup, on reste
on
sur
reste
cette
fin.
Ouais, on reste clairement sur notre fin parce qu'on en a pas pour notre argent, quoi.
Bien d'accord, mais oui, cette musique est très très datée, et c'est dommage de conclure ainsi.
Ouais, et, puis, et ça nous sort du film un peu, parce qu'on n'a pas eu trop de ce genre de musique-là, en fait, dans le film. C'est encore une fois, cette scène-là, elle est comme un cheveu sur la soupe, et même cette musique, elle arrive là, de je sais pas où, et vas-y, quoi. Bref, c'est comme ça.
C'est comme ça. Oui, c'est dommage. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce film, mon cher Seb ?
Non, du coup, voilà, on a assumé notre truc jusqu'au bout. J'ai hâte qu'on parle d'un bon film. Alors, ce sera pas avec le prochain, on va vous le teaser tout à l'heure. Mais voilà, j'ose espérer que, voilà, on prenne un peu plus de plaisir à regarder des films d'arts martiaux, parce qu'on a quand même de quoi faire, merde. Hein,
ah oui, oui.
Ça fait mal aux yeux, quand même. Hein.
C'est ça.
On a dit tous les trois numéros qu'on se faisait mal aux yeux. Là, voilà. Bon, on l'a fait. Voilà, comme ça, on l'a évacué.
Voilà. On a fait notre BA. En tout cas, voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur The One. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Seb, on se retrouve dans 15 jours.
Oui.
Avec un vrai nanar.
Oui. Ouais.
Mais que l'on... Alors attention, un vrai nanar, certes, mais on intronise un comédien spécialisé dans cette catégorie. Et ça, c'est
bon. Oui. Ah oui, c'est un comédien avec un méchant de qualité.
Deux comédiens.
De qualité. Il y a un peu de background à donner sur ce film-là, surtout pour nous, français, ouais. Au niveau de la production, parce que c'est assez problématique pour le trouver. Moi, je l'ai réussi à le trouver dans sa bonne version. Mais non, ça va être cool parce que c'est... On réfléchissait à quel nanar, et on va se le dire, cet épisode-là va sortir en plus, on l'a pas fait exprès, mais on va être une semaine avant la nuit nanarland.
C'est ça.
Donc c'était important de mettre un nanar un peu sympa, un peu emblématique. On a réfléchi si on mettait un film qui avait été passé au nu nanarland, mais on s'est dit voilà, un peu compliqué à trouver. Puis j'avais trouvé ce film-là, je dis bah vas-y, on parle de celui-là, il est suffisamment culte pour en parler. Ouais, on peut donner quelques indices. C'est un champion de kickboxing.
Voilà.
Voilà. Assez frêle. Un peu typé asiatique, voilà, pour vous donner... il aime bien se donner un surnom d'animal, voilà.
Ouais.
Et en face de lui, il a un méchant très musclé, très baraque, un blond avec une belle longueur qui va bien.
Et qui vient souvent en paix.
Et qui vient souvent en quoi ?
En paix.
En paix ?
Il vient en paix.
Je l'ai pas.
Ah, tu l'as pas ?
Tu me la diras après, alors ?
Ah,
tu l'as dit maintenant, tu laisses 15 jours de suspense.
Maintenant, je peux te dire maintenant, non, Dark Angel.
Oh, alors là, tu cherches vraiment, tu viens chatouiller les spécialistes de cet acteur, hein, vraiment.
Ah, bah,
d'accord,
oui.
J'ai la ref, c'est bon, j'ai la ref. Et je peux vous donner un dernier indice, c'est le grade ultime que tout bon pratiquant d'arts martiaux rêverait d'avoir.
Ouais, c'est vrai.
C'est pas mal.
C'est
ça donne
pas mal.
Un peu, ça donne le film si les mecs sont bons et qu'ils parlent un peu anglais, mais voilà. On va s'arrêter là, sinon on va balancer le film.
Ah ouais, non. On s'arrête là. En tout cas, bah voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu.
Oui.
Mon cher Seb, on se retrouve dans 15 jours.
Yes, j'ai hâte.
Et bah moi aussi. Allez, à plus tout le monde.
Salut tout le monde. Ciao, ciao.